chance sur Radio Royan-Vercors d'avoir la participation et aussi effectivement tout ce que compose la poésie par ce bar poétique animé par Gilbert Vincent Cabou toutes les semaines sur nos ondes. Bonjour Gilbert.
Bonjour Patrice.
Voilà, puis la poésie dans son plus grand élément nous emmène de ci, de là, à travers moult vers. Et aujourd'hui, il semblerait, si je me trompe, qu'on stèle à une icône de la poésie russe.
Oui, je vais t'expliquer. On va faire un grand saut dans l'espace et dans le temps. Alors, je me suis mis un défi par rapport au monde actuel, par rapport à la Russie qu'on ne voit que par des soldats aujourd'hui. Et moi, j'adore la poésie russe, la culture russe. Je suis allé à Moscou et à Saint-Pétersbourg et je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis, il y a quand même un... C'est pas possible que ce peuple qui, même si il est un peu brutal, qui a eu de si grands poètes, de si grands écrivains, soit dans cette espèce de parenthèse barbare. Donc je me suis mis un défi, je veux dire que toutes les 6 semaines à peu près, je tenterai de vous présenter un poète russe. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas commencer ce voyage sans parler du poète russe, le premier poète russe, celui qui a donné l'élan à la poésie russe, c'est de Pouchkine. Un drôle de personnage quand même, puisqu'il est né donc en 1799 à Moscou et il est mort à Saint-Pétersbourg en 1837. Son roman le plus célèbre, c'est Eugène Onéguine et sa tragédie Boris Godounov. Mais la vie de Pouchkine est extraordinaire. Sa vie elle-même est un roman. Il avait des origines africaines. Le jeune Alexandre souffre de ses cheveux bouclés et de sa peau légèrement foncée. Dans la Russie de l'époque, ça devait être quelque chose. Et pour pas y penser, il se réfugie dans la lecture et il dévore aussi Molière, Voltaire, Shakespeare et Biron. Et à la fin de ses études, il décroche un poste au ministère des Affaires étrangères. Et là, il passe son temps à cumuler les conquêtes amoureuses et à composer des poèmes. Et malheureusement, nous sommes sous les tsars, on a bien ça dans la tête. Malheureusement, ces textes sont jugés trop révolutionnaires et le condamnent à l'exil. Commence alors 6 années de voyage aux 4 coins de l'Empire russe. En Ukraine, dans le Caucase et en Crimée, puis à Kitchinev, dans l'actuelle Moldavie, avant de s'installer à Odessa. Voilà, tous des noms qui résonnent à nos oreilles aujourd'hui. Hein. Alors qu'il tentait de profiter encore de sa liberté en menant toujours une vie de fête, de duels et de liaisons amoureuses, Pouchkine est finalement forcé à l'isolement au sein de sa propriété familiale à Mikhailovskoye Obskovo. Excusez-moi pour l'accent. Donc là, on a des poèmes sur le Caucase, la Crimée, sur les paysages ruraux. Voilà. C'est là donc qu'il écrit Boris Godounov en 1825 et Eugène Onéguine. L'arrivée du nouvel empereur Nicolas Ier permet à Alexandre de revenir enfin à Moscou, mais il est toujours surveillé. Hein. L'empereur se propose d'être son censeur personnel. Il continue d'écrire. Désormais, dans la trentaine, Alexandre a soudain des envies de mariage. Il jette son dévolu sur la belle Natalia Nikolaïevna Goncharova, qu'il épouse en 1831. Et une fois installé à Saint-Pétersbourg avec sa femme, Pouchkine se penche sur les œuvres en prose avec plusieurs nouvelles, La Dame d'Otique, surtout parce que sa femme dépense beaucoup. Hein. Mais c'est aussi ce mariage qui conduira Pouchkine à une mort prématurée. La belle attire en effet l'attention du baron français Georges Charles de Ekeren-Dantès. Il est provoqué une première fois en duel par Pouchkine, mais Dantès parvient un temps à brouiller ses intentions en épousant la sœur de cette dernière. Hélas, Pouchkine apprend quelque temps plus tard des rumeurs de liaison entre son beau-frère et son épouse. Et c'est là qu'a lieu le duel. Il est touché au ventre et Pouchkine meurt chez lui à 37 ans. Voilà. Eh bien, on va lire quand même quelques heures de ses œuvres qui sont vraiment une très, très belle poésie. Souhait. Avec langueur coulent mes jours, multipliant au fond de l'âme les mots d'un malheureux amour, des rêves fous, des tristes flammes. Mais, devenant silencieux, je pleure. Les pleurs me consolent et mon âme qui se désole y trouve un goût délicieux. Que de la vie il ne demeure rien. Je n'aime que mes tourments. Disparissez aux tristes heures. Je veux mourir, mais en aimant. Rousselant et Lune Mia. Dans l'anse verdoie un grand chêne. Autour de lui brille une chaîne d'or sur laquelle un chat savant marche jour et nuit en tournant. À gauche, il parle, il dit un conte. À droite, c'est un chant qui monte. C'est là que rôde le sylvain qui s'abrite aux branches londines, que d'étranges bêtes piétinent sur de mystérieux chemins. On voit là-bas une chaumière, toute de guingois et qui n'a pas de fenêtre de verrière, pas de porte de cadenas. Là, sur un rivage désert, à l'aube sortent de la mer 30 guerriers. Ils étincellent et l'aîné modère leurs ailes. Là-bas, un beau prince royal fléchit la colère sauvage d'un monarque. Et sur les nuages, devant tout un peuple féal, apparaît un sorcier qui porte un chevalier de bonne sorte. Un loup est le seul serviteur d'une princesse dans sa géole. Et dans l'or, un roi s'étiole. Tout ça, c'est russe et reste tel. J'y fus et j'y bu l'hydromel. Dans cet anse où verdoie le chêne, je vis briller l'or d'une chaîne. Et sur la chaîne, un chat savant marche nuit et jour en tournant. Debout près des barreaux de mon cachot humide, je regarde un jeune aigle en cet enclos obscur. Compagnon de malheur que son bec avide déchire sa pâture informe auprès du mur. Parfois, s'interrompant, il fixe ma fenêtre. Devinant ma pensée, il paraît m'appeler. Du regard, il m'invite et son cri me pénètre, comme s'il me disait « Viens, on va s'envoler ». Oiseau de liberté, frère, brisons la cage. Il est l'heure à présent de prendre notre essor, d'avoir avec le vent cet espace en partage où blanchissent les monts derrière les nuages, où bleuissent les mers parmi les sables d'or. Soirée d'hiver, le ciel est noir et la tempête chasse la neige à coups de vent avec des hurlements de bêtes ou des vagissements d'enfants. Et sur notre toiture usée agite un chaume qui bruit ou bien frappe à notre croisée en voyageur, tard dans la nuit. Ta vestuste et pauvre chaumière est triste et sombre. Sans bouger, qu'as-tu, vieil ami, ami cher, près d'une fenêtre à songer? Es-tu donc si lasse d'entendre ces hurlements dans la forêt? Le sommeil vint-il te surprendre sous le ronron de ton rouet? Buvons, buvons, ma bonne vieille, compagne de mes jeunes ans, et qu'une coupe nous réveille, le cœur en sera plus content. Chante-moi comment vit sans peine la mésange au pays lointain, comment la fille à la fontaine va chercher l'eau tous les matins. Le ciel est noir et la tempête chasse la neige à coups de vent avec des hurlements de bêtes ou des vagissements d'enfants. Buvons, buvons, ma bonne vieille, compagne de mes jeunes ans. Où donc est la coupe des veilles, le cœur en sera plus content.
Merci beaucoup pour ces vers de Alexandre Pouchkine, Gilbert. Alexandre Pouchkine, que nous retrouverons vraisemblablement dans de prochains épisodes, tant son éventail de poésie est large. Et effectivement, c'est un morceau de choix quand on évoque la poésie russe.
Et il a fait tout ça en 37 ans quand même. Voilà, et bien écoutez, dans 5-6 semaines peut-être, on découvrira un autre auteur russe.
Avec grand plaisir. C'était « Vous prendrez bien un dernier verre » par Poétique de Gilbert Vincent Cabouf, à retrouver toutes les semaines sur les ondes de Radio Royan Vercors.